RFI, il est 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Walid Jumblat, le chef druze libanais, s'est rendu à Damas pour rencontrer Abu Mohammad al-Jolani. Première visite d'un responsable politique libanais depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Dans ce journal également, les rumeurs d'un transfert de matériel russe des bases syriennes vers l'est de la Libye qui pourrait mettre le maréchal Haftar en difficulté. Et puis en Corée du Sud, les manifestants veulent toujours la destitution définitive du président. Les agriculteurs ont même tenté de venir à Séoul en tracteur. Voilà pour les titres, bienvenue. En Syrie, les diplomates se rendent auprès des nouvelles autorités pour rencontrer le nouvel homme fort de Syrie, Abu Mohammad al-Jolani. Le chef druze libanais Walid Jumblat s'est rendu à Damas ce dimanche. Ils ont discuté tous les deux de l'avenir des relations entre le Liban et la Syrie. C'est la première visite en Syrie d'un responsable politique libanais depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, Paul Khalife à Beyrouth.
Walid Jumblat a été le premier politicien libanais à prendre langue avec le nouvel homme fort de Damas qu'il a félicité au téléphone de sa victoire sur le régime de Bachar al-Assad. C'est aussi le premier à se rendre en Syrie à la tête d'une importante délégation comprenant des députés de son bloc parlementaire et le chef spirituel de la communauté druze au Liban. Walid Jumblat, qui accuse l'ancien régime syrien d'avoir assassiné son père Kamal en 1977, a soutenu la révolte syrienne dès son déclenchement en 2011. Il n'a jamais changé sur ce point, même s'il est réputé pour ses positions versatiles. L'entretien d'une demi-heure entre Ahmad al-Shara et Walid Jumblat s'est déroulé à l'ancien palais présidentiel, là même où le leader druze était reçu par Bachar al-Assad et avant lui par son père Hafez. Lors de la discussion, le nouveau dirigeant syrien s'est voulu rassurant sur les intentions de son pays vis-à-vis du Liban, longtemps convoité et dominé par le pouvoir baasiste. Il a assuré que la Syrie n'aura plus d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté de son petit voisin. Walid Jumblat a de son côté insisté sur le fait que les relations libano-syriennes doivent être organisées sur la base des liens diplomatiques. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et dans la région toujours, agir avec force et détermination. Avertissement ce dimanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'encontre des Houthis. Ces rebelles du Yémen avaient lancé une frappe à Tel Aviv faisant 16 blessés légers. C'est la deuxième attaque lancée par les Houthis en 3 jours. L'armée américaine alliée d'Israël a réagi en visant des installations militaires rebelles à Sanaa, la capitale yéménite. Direction la Libye, les rumeurs d'un transfert de matériel russe des bases syriennes vers l'est de la Libye s'intensifient. L'avenir des deux bases russes en Syrie est incertain depuis la chute de Bachar al-Assad. Des avions cargo y ont été aperçus chargeant du matériel direction les zones contrôlées par le maréchal Haftar. Un mouvement inacceptable pour le premier ministre d'Union nationale, Abdou Hamid Dbeiba. Selon Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, cela mettrait le maréchal Haftar en grande difficulté.
Ça va être dangereux sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, il va finalement être perçu comme celui qui, comme Bachar al-Assad finalement, a livré une partie de territoire libyen aux Russes et qui va être une zone d'influence parce que les Occidentaux ne vont pas laisser les Russes s'installer durablement dans une région très proche des intérêts occidentaux. Ça va être aussi dangereux pour lui aux yeux surtout des États-Unis puisque Haftar entretient de bonnes relations avec Washington, avec Paris, avec plusieurs capitales occidentales, en voyant en lui finalement l'homme qui a contré l'expansionnisme radical, ça dangereux pour lui parce que les Américains et les Occidentaux, dans ce contexte de la guerre en Ukraine, ne veulent surtout pas d'une augmentation des capacités militaires de la Russie en Méditerranée.
En Corée du Sud, les agriculteurs voulaient se rendre devant la résidence du président suspendu Yoon Suk-yeol pour exiger sa destitution définitive, mais ils ont été interdits d'entrer dans Séoul. Résultat, des dizaines de tracteurs et des camions ont été bloqués dans les rues. En soutien, des citoyens les ont accompagnés toute la nuit. Correspondance à Séoul de Camille Ruiz.
Des centaines de personnes sont assises à même le béton, près de la frontière avec la province Gyeonggi-do, dans le sud de Séoul. Devant elles, des dizaines de tracteurs et de camions, ils font face aux bus des forces de l'ordre, garés à la perpendiculaire en travers du chemin. Kim Gyeong est membre de la Fédération nationale des associations d'agriculteurs.
Nous essayons de nous rendre à la résidence officielle du président, mais les policiers nous bloquent le passage. Yoon Suk-yeol doit être arrêté. C'est pour ça que les agriculteurs sont venus de tout le pays.
Le bras de fer dure depuis la veille, samedi 21, aux alentours de midi.
Nous avons passé toute la nuit ici, et même à 2 ou 3 heures du matin, les gens venaient nous apporter de la nourriture, des boissons chaudes. Nous sommes vraiment surpris et reconnaissants.
En soutien aux agriculteurs, les citoyens ont afflué en masse. Certains sont assis depuis des heures.
Les agriculteurs sont ici parce qu'ils veulent quelque chose, parce qu'ils veulent exprimer leur avis, faire une réclamation. C'est leur droit et je pense qu'ils devraient être autorisés à le faire.
Les manifestants chantent, certains dansent pour contrer les températures négatives. Ils se disent décidés à rester jusqu'à ce que la police se retire. Pour justifier cette interdiction d'entrer dans Séoul, les forces de l'ordre, elles, disent craindre des problèmes de circulation. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En France, une loi spéciale va permettre de reconduire pour l'an prochain le budget de l'année 2024. Dans une note, l'Observatoire des conjonctures économiques estime que si cette loi spéciale devait finalement durer, cela engendrerait une stagnation ou une aggravation du déficit au-delà de 6% du PIB. Écoutez Raoul Samporniaro, un des auteurs de cette note.
Par rapport à ce qui était prévu, on va dire qu'il n'y a que des gagnants, mais il y a deux grands groupes. Déjà, c'est les 5% des ménages les plus aisés qui ne seront plus soumis à la contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, eux, ils gagnent beaucoup. Et après, il y a les ménages, on va dire, du bas de la distribution qui ne voient plus augmenter leurs factures énergétiques essentiellement. Et eux aussi, ils gagnent parce que finalement, le gouvernement n'est plus en mesure de voter les hausses de, notamment de taxes sur l'électricité. Donc ça, c'est deux groupes au sein des ménages. Et après, il y a un troisième acteur qui gagne, c'est les très grandes entreprises qui devaient voir leur impôt sur les sociétés augmenter très significativement selon les calculs de Bercy dans la version du projet de loi de finances. Ce budget censuré.
En Belgique, cette querelle linguistique qui fait polémique. Un contrôleur de train a dit bonjour en français et en néerlandais, ce qui n'a pas plu à un voyageur qui a porté plainte contre lui. Pourquoi ? Eh bien parce que le train circulait en région flamande, ça s'est passé en octobre. L'histoire peut faire sourire, mais elle a beaucoup fait réagir au sein du royaume où le bilinguisme est indissociable de la Belgique. À Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
En entrant dans un wagon, le chef de bord aurait prononcé ces mots « Goedemorgen, bonjour », saluant les passagers dans les deux langues. Or, à ce moment-là, le train à destination de Bruxelles se trouvait encore en région flamande. « On n'est pas à Bruxelles ici, vous devez seulement utiliser le néerlandais », lui lance alors un passager mécontent qui décidera ensuite de porter plainte auprès de la commission permanente de contrôle linguistique pour non-respect des règles linguistiques dans un transport public. La législation est en effet très tatillonne. À Bruxelles, zone bilingue, les annonces se font en français en néerlandais, en Wallonie seulement en français et en Flandre uniquement en néerlandais. Le débat a fini par s'inviter jusqu'à la Chambre des députés. Sami Mahdi, chef des chrétiens démocrates flamands, parfaitement bilingue, au micro de RTL Info.
On dit souvent, oui, si on fait les deux, c'est bien. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On parle français. Si à côté de cela, on n'investit pas dans le néerlandais, qu'on précise qu'il faut apprendre le néerlandais, au final, on parle surtout le français.
De quoi provoquer une petite passe d'armes avec le ministre fédéral de la mobilité, le francophone Georges Guinet.
Permettez-moi de m'étonner que certains considèrent que c'est la priorité du jour, alors qu'ils ont aussi un gouvernement informé.
Bref, une histoire belge a commenté le journal La Dernière Heure. Un vrai marqueur culturel a renchéri un chroniqueur de la RTBF, la radio publique francophone. Nulle part au monde, un type ne va déposer plainte pour un Goedemorgen bonjour. La SNCB, Société Nationale des Chemins de Fer, a annoncé quant à elle soutenir son employé et plaide pour plus de souplesse dans l'application de la réglementation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et puis avant de terminer ce journal, quelques mots de football. Festival de buts en Angleterre, Liverpool assomme Tottenham 6 buts à 3. Le Real Madrid termine l'année sur une bonne note en battant Séville 4 à 2 avec un Mbappé en forme. Son ancien club, le Paris Saint-Germain, a éliminé Lens de justesse en Coupe de France. C'était en 32e de finale, un partout dans le temps réglementaire, puis 4 buts à 3 au tir au but. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.